Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour Maëlle Carguet.
Bonjour.
Alors vous travaillez autour des questions du développement du foot féminin pour le district de foot du Finistère. Alors est-ce que le foot féminin vit une super période en ce moment ?
Oui, on a beaucoup d'équipes dans notre district. Et c'est vrai que au niveau du district du Finistère, on n'est pas trop à plaindre au niveau du développement de cette pratique.
Alors est-ce que ça pourrait être encore un petit peu plus fort ?
Bien sûr. On est perfectible sur cette pratique, donc... On espère aller le plus haut possible.
Avec la Coupe du Monde en ligne de mire, j'imagine que ça, vous l'attendez avec impatience.
Avec les Coupes du Monde, avec la Coupe du Monde qui arrive en cet été, sur cette année 2019, avec la Coupe du Monde que les garçons ont brillamment remporté cet été, et puis avec aussi la Coupe du Monde U20 que la Ligue de Bretagne a reçue l'été dernier.
Il y a eu des matchs en Bretagne, il y a eu des matchs du côté de Concarneau, ça a été aussi... il y a eu un bon parcours de l'équipe de France aussi, ça a aidé à tirer un petit peu l'attention. Ça a eu des retombées déjà directement locales ? Vous sentez que ce type d'événement organisé sur un territoire comme la Bretagne crée des retombées ?
Alors la Ligue de Bretagne est vraiment un territoire où le football féminin est en accroissement total. On a senti des retombées, oui, parce qu'on a évidemment un accroissement de nos licenciés. Après, est-ce que c'est la Coupe du Monde U20 ? Est-ce que c'est la Coupe du Monde masculine ? On ne peut pas forcément le savoir, mais en tout cas...
Les choses tombaient bien en tout cas.
Il y avait des... En tout cas, oui.
Alors, dans le Finistère, qu'est-ce que cela représente en termes de clubs et de licenciés ?
En termes de clubs, on a une quarantaine de clubs qui possèdent au moins une équipe féminine. Donc, il y a des clubs qui, de U6 à senior, ils permettent à des jeunes filles de pratiquer du début jusqu'à les plus grandes. Et autrement, on a aussi des équipes qui viennent se greffer sur les modalités de pratique qu'on propose. En termes de pratiquantes, on est environ à 2400 licenciés qui pratiquent sur le football traditionnel.
Puis on en voit régulièrement de nouvelles sections se créer. Il y a une toute récente qui s'est créée même du côté de Telgruc-sur-Mer il y a quelques temps.
C'est ça, juste à la mi-saison, Telgruc s'est lancé sur les seniors.
Alors est-ce que c'est une dynamique nouvellement enclenchée ? Est-ce qu'on peut dire quand même que ça fait quand même bien une bonne dizaine d'années que le foot féminin commence à s'installer sérieusement dans le paysage ?
Oui, on est l'un des districts au niveau de la Ligue de Bretagne à posséder toutes les modalités de pratique, c'est-à-dire qu'une jeune fille a le choix de jouer soit avec les garçons, avec les filles, mais en tout cas si elle choisit de jouer avec les filles, son club peut lui permettre, grâce aux modalités de pratique qu'on a mis en place au niveau du district, de jouer de U6 à senior.
Alors, l'équipe de France de foot féminine, c'est un peu la rampe de lancement quand même à tout ça. J'ai envie de dire l'équipe de France et l'Olympique Lyonnais. Enfin, en fait, on parle un peu des deux, en fait, quasiment.
Exactement.
Quand on parle de l'équipe de France, on parle de l'Olympique Lyonnais. Et parce qu'il y a beaucoup de joueuses de l'OL à y jouer dans cette équipe de France. Bon, un petit peu le PSG aussi.
Oui.
Mais comme dans beaucoup de sports qui sont un petit peu en médiatisation croissante, on a un ou deux grands représentants. Est-ce que c'est pas un petit peu l'arbre qui cache la forêt ?
Pas forcément, je pense pas. La société change. Maintenant, il y a de plus en plus de sports aussi qui évoluent. Si on prend l'exemple de 98, c'est vrai que le foot était vraiment le sport pratiqué par beaucoup de personnes. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de licenciés qui sont arrivés par derrière. Aujourd'hui, les jeunes ou même les plus anciens, si on peut dire comme ça, peuvent aller sur n'importe quelle pratique, que ce soit des pratiques sportives ou des pratiques culturelles. Donc je pense qu'on peut tous travailler. Lorsque le ministère des Sports parle du sport au féminin, il parle de tout sport et pas forcément du foot. Ou je pense au hand qui est double champion du monde chez les filles et chez les garçons. Donc après, c'est un choix de personne de choisir le sport qui...
Alors quels sont les enjeux de société autour du sport féminin ? C'est peut-être bien de le rappeler, puisque derrière tout ça, il y a surtout une question de lutte contre les inégalités.
Alors oui, après... On sait très bien que le foot est considéré comme un sport masculin, dit masculin. Maintenant, moi qui en fais depuis des années, j'ai jamais été considérée comme quelqu'un de masculine. Enfin, j'essaye en tout cas. Maintenant, les filles qui sont aussi en équipe de France, qui sont la vitrine, comme vous l'avez dit, je pense pas qu'elles se considèrent comme des garçons manqués lorsqu'elles pratiquent.
Après, on peut se demander justement si tout est fait en sorte pour que une fille et un garçon, au départ, soient à pied d'égalité justement dans leur parcours.
Alors en tout cas, nous, c'est ce qu'on préconise beaucoup sur les formations d'éducateurs. Lorsqu'on considère un joueur ou une joueuse, c'est exactement pareil. Maintenant, il y a des clubs qui vont plus voilà, accepter les filles parce que c'est aussi dans leur projet sportif. D'autres qui ne vont pas forcément le faire. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas forcément de filles non plus dans leur club. Maintenant, c'est un choix, ça reste un choix de club.
Quel est le rôle du district ? Alors, vous pouvez peut-être nous présenter le district, en fait, parce que c'est un mot qui ne parle pas forcément aux gens qui ne sont pas initiés au foot.
Alors, exactement. Alors, le district, alors, ça peut être, voilà, si on parle d'autres sports, on parlerait plus de comité départemental. Et au niveau du district, bah, c'est une gestion, déjà, des clubs qui sont affiliés au district, parce que c'est une association aussi. C'est, voilà, c'est un club, c'est le gros club qui concerne tous les clubs du Finistère, donc les 290 qu'on a à cette saison. Voilà, on a la gestion, on aide les clubs à mener dans différents projets, que ce soit projet associatif, sportif, éducatif ou encadrement et formation. Puis derrière, on a aussi toute la gestion avec les différentes commissions qui peuvent concerner les jeunes, les filles, les arbitres, aider tous les clubs à gérer sur les compétitions.
Est-ce que c'est, pour simplifier, est-ce que c'est une représentation de la Fédération française de football au niveau départemental ?
C'est exactement ça. Si on compare, la fédération, c'est la France, la Ligue de Bretagne, c'est la région Bretagne, et le district du Finistère reste le département du Finistère.
Alors, quels sont, vous, vos leviers sur le département pour développer le foot féminin ? Ça passe par quelles actions concrètes sur le terrain ?
Alors, les actions, c'est déjà pour les pratiquantes, toutes les modalités de pratique qu'on met en place. En ce qui concerne la féminisation, on est en étroite collaboration avec les clubs, parce que si les clubs ne veulent pas, ça met des bâtons dans les roues. Heureusement, on a beaucoup de clubs, on est en relation avec ce qu'on appelle des référents féminins à l'intérieur de ces clubs-là, qui mènent des actions. Et bien sûr, ils les mènent avec nous ou sans nous, sur les actions comme Mesdames franchissez la barrière ou la semaine du foot féminin, qui sont des actions fédérales, donc qui se font en même temps dans le pays entier. Et puis, on travaille, nous, au niveau du district, on a une commission féminine, donc c'est des personnes qui sont bénévoles et qui viennent de différents clubs et qui travaillent pour tout le monde.
Alors, il y a des actions très concrètes aussi, c'est comme l'organisation ou l'accueil de grandes joueuses qui viennent dans le département. C'était le cas de la venue de Cridge Mbok, la Brestoise, devenue défenseur central de l'équipe de France, qui joue maintenant à l'Olympique Lyonnais,
oui.
Qui a presque une cinquantaine de sélections. Vous avez organisé une rencontre avec Cridge Mbok.
On a la chance d'avoir Cridge qui vient du secteur brestois et notamment du quartier de Pontanezen. Et qui reste, malgré maintenant ce qu'elle est devenue, joueuse de l'Olympique Lyonnais, joueuse de l'équipe de France, qui reste très abordable. Donc on a organisé juste avant les vacances de Noël, on a fait un cadeau, si on peut dire comme ça, aux écoles du quartier de Pontanezen, de faire revenir, après elle revenait aussi pour ses vacances, mais de la faire revenir et puis découvrir ou redécouvrir pour les personnes qui la connaissaient déjà, Gridge, qui elle est, la joueuse qu'elle est, aussi la personne. Et derrière, de pouvoir faire lumière sur la Coupe du Monde grâce à elle.
On peut dire qu'elle fait partie de l'ossature de l'équipe de France.
Oui.
En défense centrale.
Oui.
Et on en reparlera de la Coupe du Monde forcément sur Radio Évasion. Justement, la préparation de la Coupe du Monde, on en parle un petit peu aussi. Comment vous allez vous servir, vous, de l'événement pour développer le foot en local ?
Alors nous, en local, on n'utilise pas forcément la Coupe du Monde parce que le site principal breton reste Rennes. Donc c'est vraiment au niveau du district du 35 que les actions vont se faire. Maintenant, nous, on veut aussi l'utiliser parce que c'est quand même une chance de recevoir la Coupe du Monde au niveau de son pays.
Oui, parce qu'il y aura la médiatisation sera équivalente à ce que on pourra. Enfin, les dispositifs médiatiques seront équivalents à ce que nous a proposé le TF1, par exemple.
Exactement.
En juin dernier, c'est-à-dire qu'on aura les matchs de l'équipe de France des filles sur TF1. On aura la paire de commentateurs de TF1, Grégoire Margoton et Lisa Razou.
Oui.
Donc ce sera tout pareil.
Oui, exactement. Et nous, on va faire aussi. Tout pareil, lorsque la France avait reçu l'Euro 2016, il y avait des actions qui avaient été faites au niveau des écoles, avec le foot à l'école. Donc c'est des sites qui se mettent en place en lien avec la Fédération et l'Éducation nationale. Et derrière, on veut aussi vraiment, nous, promouvoir le mieux possible cet événement.
Alors un événement mondial qui aura des retombées forcément en local. Alors moi j'avais une question un petit peu plus précise sur des choses qu'on voit régulièrement dans la presse locale. C'est l'obtention de différents labels pour les clubs. À quoi ça correspond ?
Alors un label, c'est valoriser justement au niveau de la fédération le fait que le club soit bien structuré. Alors qu'est-ce que ça veut dire être bien structuré ? C'est répondre à des critères qui sont incontournables ou obligatoires au travers différents projets. On voyait qu'avant, les différents labels, c'était plus sur l'aspect sportif, le nombre d'équipes qu'on pouvait avoir, et ainsi de suite. Maintenant, le label, il concerne vraiment tout ce qui peut y avoir dans la vie d'un club, c'est-à-dire au niveau du projet associatif, le nombre de personnes, les personnes qui sont référentes, des jeunes, des filles, voilà, des arbitres. Derrière, on a le projet sportif, donc le nombre d'équipes engagées, pas forcément si c'est un club régional ou local, c'est exactement les mêmes critères. Et après, on a tout ce qui est le côté éducatif, parce que ça, c'est vraiment un axe de progression qu'on a, c'est-à-dire qu'on veut aussi avoir des joueurs et des joueuses qui ne soient pas que des bons joueurs, et on a pu voir les dernières années où ça avait un peu porté préjudice. Et puis dernière, c'est l'encadrement et la formation, d'avoir des personnes qui s'occupent des équipes jeunes ou adultes, mais qui sont formées.
Il y a des labels plus spécifiques au développement du foot féminin, ou ça fait partie d'un...
Alors, il y a le label jeune qui concerne tout le club, c'est-à-dire tous les pratiquants qu'il peut avoir et toutes les personnes, et le label école de foot féminine qui est vraiment spécialisé sur les clubs qui possèdent une école de foot féminine.
Et on a de très beaux exemples dans le territoire, je pense particulièrement à la SDIRINON par exemple.
Oui.
Quel est son cas, par exemple? Quel label a l'AS d'Irinon, par exemple?
L'AS d'Irinon donc, a renouvelé la saison dernière un label école de foot féminine, niveau argent. Donc voilà, c'est sur trois niveaux. Pour les filles, c'est or, argent et bronze. Et pour le label jeune, c'est plus élite, excellence et espoir.
On a l'AS d'Irinon quand même, on le cite aussi parce que c'est un partenaire de Radio Évasion. On a aussi d'autres locomotives pour le développement du foot féminin dans le Finistère, d'autres clubs qui ont cette particularité de s'être fortement engagés sur le foot féminin.
On a bien sûr les clubs qui, voilà, le Stade Brestois qui a créé sa section féminine et qui reste grâce aux clubs professionnels et puis la section amateur qu'ils peuvent avoir, qui peut être moteur.
Le Stade Brestois qui évolue en Division 2 si tu...
C'est ça. Et en division nationale, donc qui est le seul club national qu'on ait. Après, derrière, on a aussi Quimper Carfintin qui a eu deux années en division 2, bon, qui est redescendu en régional, mais qui, voilà, sur les effectifs, montre aussi qu'ils sont en faveur du football féminin.
Et Quimper a un passé très ancré aussi. Il y a eu de belles réussites par le passé, oui. Du côté du foot féminin.
Ouais. Exactement. Et puis, on a des clubs beaucoup plus historiques. Et bon, je le connais très bien puisque j'y joue. C'est le Football Club du Bergotte qui, depuis 40 ans...
Fait des bons parcours en Coupe Nationale.
Exactement.
32e, c'est ça. Ne manque-t-il pas, justement, on parlait des locomotives, mais un club qui évolue en Division 1 dans le Finistère, ça pourrait changer un petit peu le...
Je pense qu'avant d'aller tout de suite voir les seniors aussi haut, il faut d'abord structurer au niveau de la base. Pas forcément chercher tout de suite l'élitisme, mais plutôt vraiment avoir une belle masse où, justement, sortira cet élitisme. Donc je suis pas trop inquiète de me dire qu'il n'y a pas forcément d'équipe en division 1, mais derrière de plus me dire que voilà, nous avons au niveau du district tant d'équipes qui évoluent dans nos modalités de pratique qui derrière sortiront peut-être l'élitisme en D1.
Ce serait bien un Guingamp-Brest en D1 un jour.
Ça serait plutôt bien, ça serait plutôt intéressant.
Alors une question qui se pose aussi, c'est la question de la mixité dans le foot. On reste avec des filles, des garçons qui peuvent jouer ensemble jusqu'à quel âge?
Alors, une jeune fille jusqu'à l'âge de 14-15 ans, donc sur son année du 15, peut encore jouer avec les garçons. Donc, et ensuite arrivée en U16, il faut qu'elle rejoigne une équipe féminine.
Le foot féminin, vous le considérez au district du Finistère un petit peu comme l'avenir des clubs locaux aussi? Ça passe vraiment par...
L'avenir des clubs locaux, ça sera de pouvoir proposer une pratique pour tous. C'est-à-dire que peu importe la personne qui arrive au club, il faut qu'elle puisse jouer dans la catégorie ou la modalité de pratique qu'elle souhaite. Soit sur du foot traditionnel, soit si c'est une jeune fille au niveau du foot féminin, soit voilà, si c'est, je pense, une personne en situation de handicap, peut-être qu'elle peut avoir une situation de jeu sur le sport adapté, avec les pratiques diversifiées que la fédération met en lumière.
Ça aussi, ça renouvelle un petit peu l'image du foot, en tout cas en local, sur les territoires aussi, que les filles participent un petit peu plus. Ça doit un petit peu changer un petit peu la vie des clubs, d'avoir plus de filles.
Exactement. Après, nous, sur toutes les actions qu'on peut faire, et c'est vraiment Olivier Cadic, qui est le conseiller technique départemental, qui milite pour que toutes les actions qui soient faites, les garçons et les filles soient liés. C'est-à-dire qu'on ne fait pas, par exemple, une action un mercredi avec des garçons et le mercredi d'après avec les filles. C'est vraiment tout le monde ensemble pour vraiment considérer n'importe quel licencié normalement.
Un autre levier aussi pour féminiser le foot, c'est faire en sorte d'accueillir plus d'encadrantes aussi. Alors comment c'est possible et de quelle manière peuvent s'investir les femmes dans les clubs de foot ?
Bah déjà, c'est de la communication, c'est-à-dire que voilà, si on voit une maman qui est tous les samedis à supporter son fils ou sa fille ou son mari en senior, bah peut-être qu'on peut lui proposer d'avoir une action, d'avoir une licence dirigeante ou animatrice si elle est venue se former pour avoir des missions qui sont tout autres. Hein. Elle peut être très importante même en dehors du terrain. Donc c'est là-dessus aussi, c'est des clubs qui invitent à venir au club pour aider. Et puis derrière, nous, on forme, voilà, on a une formation qui s'appelle animatrice. Donc, elle s'appelle animatrice fédérale de football. Elle est bien sûr ouverte aux hommes. Un homme peut aussi être animateur. Et l'idée, c'est vraiment de leur expliquer que même si, j'en rigole souvent en le disant, même s'ils ne connaissent pas le hors-jeu, peuvent venir à l'intérieur du club, aider l'éducateur, aider le président, aider le secrétaire sur plein d'actions.
Puis dans l'encadrement aussi des joueurs et des joueuses aussi. On a de très bons exemples à haut niveau aussi de femmes entraîneuses qui... Alors, entraîneurs ?
Entraîneurs.
Des femmes entraîneurs qui ont encadré et qui ont amené des gars vers la réussite. C'est le cas de Corinne Diacre avec Clermont.
Oui.
Qui a été, il faut le rappeler quand même, la première entraîneur femme. Du coup, à coacher des gars en Ligue 2.
C'est ça. Puis c'est moteur aussi. Ça donne envie à des filles qui sont peut-être éducatrices au niveau local, qui ont une équipe U11, U13, et de se dire, bah, avec le développement des métiers du sport, bah, peut-être qu'un jour, ça pourrait aussi leur arriver à elles.
Et puis, alors, il y a la question de l'arbitrage aussi. Comment ça se passe ? Est-ce qu'on voit aussi des filles arbitrer des gars ?
Alors on en voit beaucoup, maintenant on est aussi en manque d'arbitres, que ce soit masculin ou féminin, on voit beaucoup moins de personnes se diriger vers l'arbitrage. Maintenant c'est vrai qu'il y a des jeunes filles qui sont intéressées par l'arbitrage.
Alors on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais comment est-ce qu'on arrive, alors c'est la question un peu plus personnelle, mais comment on en arrive à s'engager pour le développement du foot féminin au district du Finistère ?
Alors je pense que déjà quand on signe sa première licence, on n'a pas forcément... conscience qu'on milite pour ça, même si on le fait inconsciemment.
Il y a un engagement, en fait, qui se crée.
Il y a un engagement. Moi, après, c'est arrivé par chance d'être au district. On m'a proposé, il y a 5 ans, de coacher une équipe féminine. Voilà, j'avais mon parcours de joueuse, mais pas forcément un parcours de dirigeante ou d'éducatrice. Et derrière, c'est se dire, de se faire un réseau, de connaître du monde. Et puis, ma formation universitaire qui était dans le sport m'a donné envie aussi de rentrer dans un comité départemental.
Eh bien, merci beaucoup Maëlle Carlouette d'être venue nous présenter ce qui se passe au niveau du foot féminin dans le département du Finistère. Pour information, si vous voulez suivre le foot féminin, il y a de nombreux matchs. On peut en voir sur Canal, puisque Canal a acquis les droits de la Division 1.
Oui.
On dit Division 1 et pas
c'est
Ligue 1
ça.
Chez les
c'est
filles.
Ça.
Mais ça se passe aussi près de chez vous. Alors, vous pouvez aller soutenir par exemple la section féminine du Stade Brestois, voilà, par exemple,
oui.
Ou Quimper Carfintin.
Exactement.
Ou même le PL Bergotte.
Le FC Bergotte.
Le FC Bergotte, pardon.
Pas de souci. Ou l'AS Dirénon.
Ou l'AS Dirénon aussi.
Dirénon.
On peut suivre aussi le parcours de l'équipe de France en juin prochain, puisque ce sera diffusé sur TF1. On leur fait de la pub, mais c'est pour la bonne cause.
Exactement.
Et puis, alors, il y a une autre information aussi. Il y a une action ce week-end, c'est Mesdames, franchissez la barrière. Vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Bah justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est Mesdames, franchissez la barrière, c'est amener les femmes... à venir franchir la barrière, comme le dit le slogan, de venir avoir des actions dans son club, de venir aider l'éducateur, le président, le comité directeur du club sur des actions.
Et puis on prend un peu d'avance aussi, ça se passe en mai, comme chaque année depuis 8 ans, le district du Finistère s'engage dans l'opération nationale la semaine du football féminin. Vous pouvez nous en dire quelques mots sur cette semaine ?
Alors, la semaine du football féminin, c'est des portes ouvertes qui mettent en lumière le fait que les clubs accueillent des nouvelles pratiquantes ou accueillent ses propres licenciés aussi sur cette semaine et mettent en lumière des actions qui peuvent être faites autour des terrains. Je prends l'exemple de ce qui est fait souvent, c'est sur les matchs des seniors garçons ou des filles, d'avoir les jeunes filles du club qui peuvent rentrer dans la main sur un protocole fair play, comme on peut voir chez les plus grands.
Eh bien parfait, on en reparlera à ce moment-là peut-être.
Exactement.
On refera une émission avec peut-être des actions du territoire.
Avec plaisir.
Merci beaucoup Maëlle.
Merci à vous.